Grand Jury de la presse immobilière, une émission en partenariat avec Régus et bien ici sur Radio Immo.
Bonsoir à toutes et tous, bienvenue dans ce numéro de mai 2024 du Grand Jury de la presse immobilière. Au sommaire de l'émission ce mois-ci, la météo de l'Immo, présentée par Régis Sébille, avec cette fois un focus taux d'emprunt. Bonjour Régis.
Bonjour Charles.
Comment allez-vous ?
Très bien.
Eh bien, c'est parfait. Ensuite, nous aurons la revue du grand jury, les coups de cœur, coups de blues, coups de gueule du moment de nos journalistes. Bonsoir à tous. D'ailleurs, on accueille Virginie Grelot de Challenge.
Bonsoir.
Gaëlle Thomas de Business Immo.
Bonsoir.
Et Antoine Laurent de Capital.
Bonsoir à tous.
Eh bien, welcome sur le plateau du grand jury. Et on enchaînera avec le grand débat. Le logement est-il le ciment des grandes fractures sociales du 21e siècle ? Donc c'est un titre d'ampleur. En compagnie de Laurent Permas. Bonsoir Laurent.
Bonsoir Charlotte.
Vous êtes président du directoire chez Sofiap, filiale de la Banque Postale, mais aussi créateur du CESU. Et vous avez dirigé le manifeste pour la liberté de vieillir chez soi aux éditions du Cherche Midi, paru en octobre 2023.
Absolument.
Eh bien, écoutez, je vous propose qu'on démarre tout de suite avec notre première rubrique, la météo de l'Immo.
La météo de l'Immo, par bien ici.
Retour sur le plateau du grand jury. Régis, qu'est-ce que vous nous avez concocté ce mois-ci ?
Alors, ce mois-ci, on va parler un petit peu de l'évolution du marché immobilier. Et on va commencer par un premier sujet financier qui sera l'évolution des taux et voir comment l'évolution des taux va jouer un petit peu sur le marché immobilier et la situation actuelle.
Eh bien, on a un spécialiste en plus, donc n'hésitez pas les uns et les autres à réagir. Eh bien, quelle évolution du coup pour les taux ?
Alors, les taux, si on part actuellement, on est à peu près à un taux de l'ordre de 3,9% sur un emprunt sur 25 ans, c'est ce qu'on voit à peu près aujourd'hui. Donc 3,9%, c'est bien par rapport aux 4%, voire un petit peu plus qu'on avait avant, jusqu'à décembre à peu près. Mmh. Donc là, on est sur une petite pente douce, mais il ne faut pas oublier qu'il y a deux ans, un peu plus de deux ans, début 2022, on était aux alentours de 1%, voire même en dessous de 1% pour les meilleurs dossiers. Donc on a un taux de financement pour les prêts immobiliers qui a été multiplié par 4 en l'espace d'à peu près 2 ans.
Ouais, c'est énorme. Et quid du coup des prix ?
Et du coup, les prix, sur la même période, si on regarde à partir de 2022, on a une baisse qui, elle, est un peu plus minoritaire de 3%. Donc on pourrait se dire, x4, et une baisse de 3%, c'est à peu près équivalent. Mais la baisse de 3%, elle se veut sur un axe plutôt raccourci. C'est pas sur les deux ans, c'est plutôt visible depuis l'été dernier. En fait, depuis la période inflationniste, on a eu plutôt une stabilisation des prix qui sont restés à un niveau haut. Ils avaient fortement augmenté après le Covid. Et ils se sont stabilisés pendant 12-18 mois, surtout 12 mois de l'été 2022 à 2023. Et on commence à baisser vraiment à la fin de l'été dernier. Et du coup, cette baisse, vous allez me poser la question, elle est de 3%, ça fait à peu près 100 euros par mètre carré en moyenne nationale, et c'est surtout visible sur les appartements.
Et du coup, c'est une bonne nouvelle si on achète moins cher des appartements.
Alors, j'ai fait des petits calculs justement par rapport à tout ça. Quand on regarde le prix, début 2022, on était sur un prix moyen au niveau national de 3500 euros du mètre carré. Ce qui nous donnait, avec un taux à 1,1% de taux de crédit, un coût du crédit pour le mètre carré de 500 euros. Aujourd'hui, on a baissé de 100 euros, comme je vous ai dit, par mètre carré, mais à 3,9, c'est plus la même. On est plutôt sur un coût du crédit pour un mètre carré de l'ordre de 1930 euros, ce qui fait un coût de crédit qui a été, lui, augmenté 2400 euros. Donc si on baisse le prix de 100 euros du mètre carré et qu'on augmente le financement de 1400 euros, ça fait un surplus de 1300 euros et donc ça coûte plus cher en termes de financement.
On est très très perdant. En effet, c'est pas neutre du tout. Et du coup, quelles sont les villes les plus impactées ?
Alors, globalement, toutes les villes sont impactées. D'une part, les grandes villes, si on pense à Lille ou Bordeaux par exemple, et qu'on regarde le prix médian d'un T3, donc juste quand on regarde globalement l'évolution du prix sur les deux dernières années, sur un T3, l'évolution, c'est plutôt une tendance à la baisse de l'ordre de 20 000 à 40 000 euros pour un T3. Donc c'est assez important. On va avoir des exceptions, notamment Nice. Nice qui fait partie des villes les plus plébiscitées des Français, en tout cas sur Bien Ici. On va avoir une augmentation du prix au mètre carré à Nice, qui ne suit pas justement ce taux de crédit en hausse. Et on est de l'ordre de plus de 10 000 euros par an depuis 5 ans. Donc là, on a encore gagné depuis le début de l'inflation 20 000 euros pour un T3 à Nice. Au niveau des villes moyennes, pour donner d'autres exemples, je pense à Angers, notamment, ou à Rouen, on a la même tendance de baisse de prix que dans les grandes villes. Mmh. Et ce qu'il faut surtout savoir, c'est que le prix actuel dans des villes comme Angers, c'est inférieur à celui d'il y a 2 ans, légèrement, mais ça reste bien au-dessus des prix qu'on constatait avant la crise sanitaire.
Donc en résumé, Régis, si je comprends bien, l'immobilier coûte bel et bien plus cher aujourd'hui.
Alors oui, c'est clairement vrai, ça coûte plus cher en termes de financement. Le prix affiché a peut-être tendance à baisser, même s'il est un peu plus haut qu'il y a 5 ans. Il a tendance à baisser actuellement, mais ça coûte vraiment plus cher de le financer. Et c'est là le principal souci, en tout cas, de ce qu'on ressent en tant que diffuseur d'annonces immobilières, de ce blocage par le prix. Aujourd'hui, si on regarde le premier effet qu'on va avoir, c'est une augmentation de l'offre en général, parce que les biens mis en vente mettent plus de temps à se vendre. Et on va avoir une situation de blocage qui va être à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est le point principal qu'on va voir, c'est sur les primo-accédants. Mmh. Étant donné que le coût du crédit a fortement augmenté et que c'est les principaux concernés sur un premier acte d'achat, c'est cette partie de la population a tendance à rester locataire. Donc on connaît la situation sur le marché locatif qui est déjà bouché, et du fait qu'il reste locataire, ça bloque un peu ce marché-là. On va avoir un deuxième point bloquant sur le marché immobilier au global, c'est qu'on a des vendeurs aujourd'hui qui espèrent vendre au même niveau que le niveau haut de fin 2021. En se disant, mon voisin, par exemple, il a vendu à tel prix il y a moins de 2 ans, donc je ne vois pas pourquoi je baisse, et ils ne vont pas avoir la sensation de devoir brader, en fait, leur logement. Et on a un troisième niveau, qui est les secondo-accédants, qui, en regardant les taux de crédit, vont se dire, non, ce n'est pas le moment de faire un prêt-relais.
Ça, c'est clair.
Qui va me coûter encore beaucoup plus cher. Donc on a un marché qui reste assez bloqué de cette question de financement. Néanmoins, on peut regarder aussi tous les bons côtés de ces annonces qui arrivent, comme cette petite baisse de taux qu'on a eue début 2024, où, sur Bien Ici, on a vu qu'il y avait un écho dans les recherches. C'est-à-dire que les recherches ont repris après avoir fortement baissé sur le dernier trimestre. Et là, les recherches repartent, on se réintéresse. L'envie d'acheter, elle est toujours là. Et elle reste surtout bloquée par ce côté financier aujourd'hui.
Je vous voyais hocher la tête, Laurent Permas. Vous souhaitez réagir ?
Non, c'est très juste. En fait, le marché gelé, parce que les Français ont oublié qu'il y a 20 ans, les taux étaient à 2 chiffres.
Et
ils étaient à 11, 12%, 13%. D'accord ? Ça, ils l'ont totalement oublié. Et ils ont juste oublié aussi qu'ils ont fait beaucoup d'argent sur la revente de leurs biens pour réacheter un autre bien. Ça, ils l'ont totalement oublié.
Donc, secondo-accédants, puisque par définition, ils n'ont jamais revendu encore cela.
Les primo-accédants accédaient au marché avec un taux, on va dire, très très bas, qui était totalement anormal. Hein. Coût de l'argent, en fait, quasiment à zéro. Et savaient, ou en tout cas avaient en tête, qu'ils allaient revendre avec une plus-value. Mmh. Et cette plus-value, d'ailleurs, c'est la résidence principale, on n'est pas taxé. Donc ce phénomène a, pendant 20 ans, augmenté naturellement le prix du mètre carré, puisqu'il y avait une demande très forte, cette demande permettait de financer les moments de vie, hein, le y compris que ça soit que vous soyez primo-accédant ou secondo. Donc ça s'est totalement, ça a rempli une bulle spéculative, hein, qui fait aujourd'hui que vous avez un prix du marché qui est extrêmement haut, et qui est totalement décorrélé par rapport au pouvoir d'achat et surtout votre revenu.
Je vous propose qu'on en reparle au moment du grand débat. Mais merci en tout cas, Régis, pour ces éclairages. On enchaîne tout de suite avec la revue du grand jury, mais restez avec nous, Régis.
Le grand jury de la presse immobilière, la revue du grand jury.
Alors, retour pour la deuxième partie de notre émission. Donc, la revue du grand jury, juste pour rappeler un petit peu le concept, c'est chaque journaliste qui, à tour de rôle, présente son coup de cœur, son coup de blues, son coup de gueule du mois sur l'actu IMO. Donc, écoutez, je vous propose de démarrer, Virginie, honneur aux dames. Qu'est-ce que vous avez choisi?
Alors, moi, j'ai choisi de regarder, en fait, ils sont sortis il y a quelques jours. C'est une étude de la Fondation Abbé Pierre qui s'intéresse au phénomène des tanguis, c'est-à-dire ces jeunes étudiants ou salariés qui habitent encore chez leurs parents. Le message était assez alarmiste en disant effectivement, ce nombre ne cesse d'augmenter, puisqu'on est passé de 4,67 millions de personnes en 2013 à 4,92, donc quasiment 5 millions de personnes en 2020. Alors, et ça, c'est important parce que faut quand même bien regarder, 2013-2020, on est avant la crise sanitaire, on est avant tout un tas de phénomènes qui sont venus complètement perturber le marché ces dernières années. Mais, donc ça date un peu, c'est ce qu'on peut regretter, mais le phénomène est là et on constate que cette période 2013-2020, alors j'ai pas recherché, mais en gros, les prix de l'immobilier ont en tout cas flambé durant cette période. Si on reste toujours sur cette période 2013-2020, il y a juste la crise financière de 2011 que tout le monde a oublié. Tout à l'heure, Laurent Pernas, vous signaliez tout ce qu'on a pu oublier. On a oublié la crise financière de 2011, entre autres, mais on va dire que sur cette période, les prix ont augmenté dans la quasi-totalité des grandes villes, c'est sûr, des villes moyennes aussi, de manière plus modérée, certes. Et ça conduit ces jeunes étudiants, ou surtout ces jeunes salariés, parce que sur les presque 5 millions, il y a 2,4 millions d'étudiants, 1,3 million de jeunes salariés. Toutes ces personnes sont restées donc chez leurs parents et ont poursuivi une cohabitation qui a déjà duré un certain temps. Alors, certains parents peuvent en être avis, certains enfants aussi, ou pas. Ça, c'est selon. Et le petit point qui était assez interpellant, je ne sais pas si ça se dit, c'est de constater qu'à 30 ans, c'est quand même tard, hein, vous êtes rentré normalement dans la vie active, même si vous avez fait des études longues, etc., etc., vous avez 3% de femmes qui vivent encore chez leurs parents contre 13% chez les hommes. Alors là, je n'ai pas d'explication, mais je me demandais quand même pourquoi 4 fois plus d'hommes vivaient encore chez leurs parents.
C'est... Ils reviennent, en fait.
Ils reviennent peut-être, mais en fait, alors, est-ce qu'il aurait été intéressant...
Ils se sont fait jeter, ils reviennent.
Ils se sont fait jeter, ils reviennent, ouais, c'est peut-être ça. Ah, les pauvres. Et surtout, ce qu'on ne voit pas dans ces chiffres, mais peut-être que le phénomène est relativement restreint, et ça, c'est une bonne nouvelle. On a beaucoup parlé, eu égard au niveau élevé des prix, des problèmes de décohabitation, entre guillemets, quand on divorçait notamment, avec ces complications pour les parents, avec des couples qui, quelquefois, restaient encore à habiter sous le même toit alors qu'ils n'étaient plus ensemble. Et c'est pas un truc très drôle à vivre. On le voit pas vraiment dans les chiffres. Donc on peut espérer, en tout cas, que ces profils-là ont réussi à se reloger et n'ont pas eu besoin de retourner chez leurs parents. On sait toutefois que ça existe. Mais en tout cas, ça traduit des difficultés réelles sur le marché. On n'était qu'en 2020. Je doute que la situation se soit améliorée depuis.
Merci Virginie, vous parliez de la Fondation Abbé Pierre et j'en profite pour faire un petit lien. J'ai eu l'occasion de voir très récemment le biopic et c'était assez intéressant de voir à quel point les initiatives parfois peuvent faire avancer le logement au niveau notamment des pouvoirs publics puisque ça a eu un véritable impact qu'on connaît et je ne me souvenais pas qu'il était parti si récemment finalement mais avec un parcours très très long dans ce domaine en tout cas. Merci beaucoup Virginie pour ce coup de blues quand même un petit peu. Non, c'est pas vraiment un coup de blues, c'est un constat.
C'est un constat.
Un voilà. Signal d'alarme.
Oui, plutôt, oui.
Antoine.
Oui, moi je vais être d'humeur un petit peu plus joyeuse. Je vais vous parler d'un coup de cœur. En fait, c'est un coup de cœur, c'est une BD que je vais vous présenter, que vous pourriez peut-être...
Oui, on va le passer.
L'image. Voilà la caméra. C'est intéressant parce que c'est une BD dont le thème est le mal logement et je n'ai pas souvent eu l'occasion de voir des BD qui traitaient ce sujet-là auparavant. C'est un auteur qui s'appelle Infographiste qui s'est amusé qui vous promet de vous expliquer comment mal vous loger en fait, mais en cinq étapes. Voilà, comment réussir à, enfin, comment rater justement sa demande de logement social, comment réussir à ne pas se loger dans le parc privé, comment rater son soutien, enfin, le fait de demander un soutien aux associations. Et donc, voilà, c'est pas mal de pastilles qui présentent un sujet quand même assez lourd, quoi, assez grave sur le sujet du mal logement. Et, donc je disais, c'est un auteur qui s'appelle l'infographiste qui a l'habitude de parodier, de s'amuser sur des sujets divers.
Et du coup, vous l'avez lu ?
Eh oui, tout à fait. Bah, c'est pour ça que je vous le propose, ouais. C'est que c'est un petit coup de cœur. C'est 18 euros à vendre, à l'achat. Et alors, il faut savoir que la moitié des recettes seront reversées à une association qui s'appelle le Syndicat des Immenses pour les individus dans une merde mémorable mais non sans exigence. Voilà l'acronyme, les Immenses. Et voilà, donc c'est une association qui lutte contre le sans-abrisme. Enfin, petite précision, ils n'appellent pas ça le sans-abrisme, eux. Ils appellent ça le sans-chez-soirisme. Mmh. Parce qu'ils estiment que les personnes qui cherchent un logement veulent un chez-soi et non pas un abri. Donc, d'où la lutte contre le sans-chez-soirisme. Et voilà, donc je me disais que pour une fois qu'on a une initiative comme ça, originale, une BD qui vous parle d'un sujet un peu humoristique du mal logement, bon, voilà, si vous voulez faire une bonne action, vous pouvez vous intéresser à cette BD, c'est 72 pages, 18 euros, et la moitié sera reversée à des fins très utiles.
Eh ben écoutez, vous nous avez donné envie, donc mal se loger en 5 étapes.
Tout à fait.
Eh bien, merci beaucoup pour ce coup de cœur. Gaël.
Oui, alors, moi j'ai un coup de blues, un coup de chapeau et un coup de gueule.
Oh, bah, la totale.
Oui. Le coup de blues, pour être toujours sur la thématique du logement, je sens que c'est mon téléphone qui va sonner.
Alors, je vais faire une transition. Choisir, c'est renoncer, Gaël.
Oui, mais moi, je ne vais pas choisir, là. Donc, pour surfer sur le thème du logement dont on va parler ce soir, c'est un chiffre qui a été avancé par le Haut Comité pour le droit au logement, qui a été créé à l'initiative de la Fondation Abbé Pierre et qui est rattaché au Premier ministre, et qui indique que la France a passé la barre des plus de 100 000 ménages qui ont droit opposable au logement, le DALO. Donc voilà, c'est un record, donc ce qui veut dire qu'on a un petit souci, donc ça c'est plutôt plus qu'un coup de gueule, c'est vraiment le coup de blues. Le coup de chapeau, je voudrais l'adresser à Alain Taravella, qui a lancé une nouvelle offre dans le logement neuf, et qui grosso modo promet sa proposition de valeur, c'est que pour le prix d'un loyer, vous pouvez devenir propriétaire. Et en fait, c'est surtout sa démarche, moi, que je salue, parce que clairement, ce qu'il dit, c'est « j'attends plus rien de l'État. Mmh. On va se débrouiller par nous-mêmes. Mmh. On a un sujet, nous, les promoteurs, on a une crise de l'offre, on a une crise de la demande, on a les deux combinés. »
Je crois que j'ai vu les affiches dans le métro.
« On va se débrouiller et du coup, on prend le taureau par les cornes. » Voilà. Et puis le coup de gueule, c'est « il pleut depuis le mois d'octobre, moi je suis en scooter électrique dans Paris et j'ai attrapé la crève et j'ai juste la voix enrouée. » Voilà, c'était ça le coup de gueule.
Ouais, c'est vrai, on se fait souvent la réflexion, là en ce moment, ça ressemble plus au Vietnam qu'à Paris. C'est des pluies terribles, torrentielles.
On attend. Il fait pas chaud, ça ressemble plus à la Bretagne, c'est un Breton qui vous le dit.
Oui, c'était pour l'humidité, le taux d'humidité. Mais en tout cas, oui, on attend l'été et d'ailleurs j'en profite pour vous dire que notre prochaine émission sera le jour du solstice d'été, on se retrouvera le 20 juin, donc voilà, et en espérant qu'on ait d'ici là le soleil. Et ben écoutez, je vous remercie de vos contributions, je vous propose de poursuivre maintenant avec notre invité, un homme engagé pour l'innovation sociale, président du directoire chez Sofiap, on le rappelle, filiale de la Banque Postale, créateur du CESU. Il a notamment dirigé le manifeste pour la liberté de vieillir chez soi aux éditions du Cherche Midi. Et je vous propose du coup de faire ce grand débat en deux temps. Un premier temps sur le crédit immobilier, on reste raccord avec Régis. Et un second temps plus sur le mieux vieillir chez soirisme. Hein? Pour le petit clin d'œil.
Tout à fait.
À tout de suite pour le grand débat.
Le grand jury de la presse immobilière. Le grand sujet.
Alors, retour sur le plateau du grand jury de la presse immobilière. Le logement, donc, est-ce un ciment des grandes fractures sociales auxquelles nous devons aujourd'hui faire face? C'est une vraie question. On va tenter d'y répondre avec Laurent Permas. Démarrons sur notre sujet crédit immobilier. L'accès au crédit, on en a parlé, on l'a évoqué plus tôt dans l'émission. C'est un sujet central lorsqu'on parle de logement. On agite pas mal le chiffre rouge depuis quelques temps. On est autour des 3,80, si je ne m'abuse. Comment est-ce que on en est arrivé là? Et est-ce que les taux, c'est véritablement le problème?
Alors, comment on en est arrivé là? Je pense qu'on l'a un peu résumé, notamment en prenant comme outil spéculatif, ou en tout cas en spéculant sur sa résidence principale, hein, sans qu'il y ait eu une valeur ajoutée forte, hein, créatrice d'emplois. Voilà, on a peut-être réaménagé, décoré son jardin, refait la peinture, mais il n'y a pas eu vraiment une création de valeur. Voyez, donc lorsqu'il n'y a pas de création de valeur, c'est là où on peut poser la spéculation. Donc ça, c'est le premier point. C'est pendant sur l'espace des 4 dernières années, c'est quasiment 50% que le prix, en fait, l'augmentation du prix du mètre carré. Donc c'est énorme, par rapport à l'augmentation en fait des salaires et de l'inflation, hein, entre 1,5%, 2%. Donc ça c'est le premier point, le premier constat. Le second, c'est qu'on s'est habitué donc à un taux relativement faible, parce que les banques se refinançaient aussi à un taux très bas. La BCE a justement lutté ces deux dernières années contre l'inflation, avec un travail des taux longs, des taux courts, enfin, qui était inversé, et surtout un coût de refinancement qui a été beaucoup plus cher. Et donc, qui a amené les banques à relever naturellement le coût du crédit, et donc le taux qui est passé de 1 à 5, hein, avec un taux d'usure qui était trimestriel et qui est passé, en fait, en mode mensuel, justement, pour pouvoir désengorger le statu quo des banques qui avaient arrêté la production, parce que ça dégrade très fortement votre résultat, votre marge, même si c'est un moment de vie très fort pour lequel les banques équipent, hein, équipent en assurance, équipent en épargne, parce que le Français est heureux d'avoir réalisé son achat. Donc, c'est systémique, si vous voulez. L'économie est basée justement sur une rentabilité, sur une marge, même si vous avez un coût d'acquisition qui est parfois onéreux, puisque vous payez votre coût d'agence, l'agence qui est en plein centre-ville, etc. Donc, vous avez des coûts, des charges qui font que forcément, le modèle économique n'était plus rempli. Et là, il faut être prudent, hein, parce que, à nouveau, le coût de refinancement est remonté. Donc les banques vont peut-être mettre un peu de temps, puisqu'il y a une compétition, mais à un moment donné, le coup de sifflet va s'entendre sur la rentabilité, hein, sur un équilibre économique. Et peut-être des taux qui vont se stabiliser et ne pas continuer à descendre. Je pense qu'il faut arrêter d'imaginer un taux bas, et ce taux bas, c'est la solution. Ce n'est pas que la solution, puisque vous avez en fait un modèle aujourd'hui qui est complètement bloqué, avec des programmes de neuf qui ne sont plus subventionnés, en tout cas pour lesquels il n'y a plus de financement, et donc ça c'est des dépôts de bilan en pagaille. Des programmes de logements sociaux aujourd'hui où lorsque vous avez des revenus qui vous permettent de sortir de votre logement social, eh bien vous ne sortez pas, parce que celui-ci le fait d'aller chercher une location où vous n'êtes pas non plus en capacité d'être propriétaire, parce que vous n'avez pas les 35% d'endettement, vous êtes au-dessus largement, et donc le primo-accédant, c'est pas pour vous. Et donc le locataire qui a cette même problématique de se retrouver aussi, hein, primo-accédant, et qui ne fait pas le pas parce que le reste à charge n'est pas suffisant. Donc vous avez tout un système aujourd'hui qui est bloqué, et qui fait qu'il, sans aide, ou en tout cas sans recherche de dispositifs un peu innovants, eh bien, vous retrouvez dans une mécanique qui est fatale. Et on reparle aujourd'hui de l'abbé Pierre, ce qui n'est pas forcément bon signe.
Ah, mais ça, c'est certain. Mais du coup, on a bien compris, les primo-accédants sont un petit peu les laissés pour compte, enfin beaucoup même. Les solutions concrètes pour sortir de cette bulle spéculative?
Alors, il y en a plusieurs. La production immobilière, c'est 60% de primo-accédants. Donc, c'est énorme. Moins de 35 ans. Et l'entreprise, aujourd'hui, en tout cas, nous, on est en train d'ouvrir un dispositif qui était réservé jusqu'à présent au secteur public, qui est le prêt subventionné par l'entreprise. C'est-à-dire prendre comme tiers payeur, pas l'État, puisque l'État finance déjà le PTZ, et on voit cette difficulté qu'il y a sur les équipes budgétaires. Donc là, c'est l'entreprise qui va jouer un rôle de régulateur et qui va pouvoir, en fait, prendre en charge une partie des intérêts d'un prêt immobilier de son salarié. Alors, vous allez me dire pourquoi ? Bah, la première raison, pour les grandes entreprises, c'est cette dimension RSE, l'engagement, l'entreprise à mission, être attractive. Donc ça, elle le décline facilement. Après, les PME les petites entreprises, elles ont beaucoup moins de dispositifs qui permettent d'accompagner en fait le salarié, hein, ce qu'on appelle les avantages sociaux, le titre restaurant, l'épargne salariale, le CESU, la mutuelle. Et donc ces entreprises, eh bien, lorsqu'elles ont ce type de dispositif qu'on a ouvert au secteur privé... Ça compense, et c'est à budget modéré. Pourquoi ? Parce que vous avez en moyenne 5% des salariés qui vont acheter dans l'année. Donc votre budget, lorsque vous êtes chef d'entreprise d'une PME ou d'une TPE, il est gérable. Et donc, vous allez pouvoir prendre en charge une partie des intérêts. Alors, 2% sur une enveloppe de 100 000 euros, ça fait 30 000 euros. 30 000 euros, c'est un apport. Et donc, ça va vous permettre, en fait, justement, en tant que salarié, d'acheter, parce que cet apport va vous faire passer la fourche connue des 35% d'endettement, les normes HESF. Et cet apport va vous permettre aussi d'être en cohérence avec votre projet de vie, parce que lorsque vous êtes locataire et que vous avez 65 mètres carrés, et que votre banquier vous dit « bonne nouvelle, je vais vous financer, mais c'est 30 mètres carrés, il y a un petit problème. » Donc vous restez locataire. Et donc là aussi, c'est 32 000 euros, hein, si je reprends cet exemple qui est une moyenne aujourd'hui des entreprises lorsqu'elles prennent en charge le dispositif, eh bien c'est un apport qui va vous permettre d'avoir en gros 10-15 mètres carrés et éviter aussi de vous éloigner à une heure ou une heure et demie, parce qu'il faut parler aussi des zones tendues. C'est pas que le Grand Paris, aujourd'hui, les zones tendues. C'est la Bretagne, hein, Rennes, un TGV à une heure et demie entre Paris fait doubler les prix. Donc vous avez des zones tendues maintenant à Rennes. Saint-Malo, n'en parlons pas, parce que c'est la problématique d'Airbnb et touristique. Mais toutes les grandes villes, aujourd'hui, sont dans un mode de zone tendue. Et en fait, les salariés se retrouvent de plus en plus éloignés. Puis le dernier point, c'est que l'entreprise, elle a ce rôle et cette légitimité... puisque le télétravail s'est installé. Et donc, travailler deux jours chez soi n'est plus une période Covid, est une période souhaitée. Et c'est une nouvelle organisation du travail que nous avons. Et cette nouvelle organisation du travail, elle n'a pas été intégrée non plus dans l'écosystème des pouvoirs publics, des entreprises. Et c'est la qualité de vie au travail. Lorsque vous faites du télétravail, vous êtes en tant que DRH, en tant que chef d'entreprise, responsable de la qualité de vie du travail sur le chez-soi de votre collaborateur. Et donc le côté divan, la table Ikea sans faire de réclame qui faisait rire, où on se prenait des photos pour se les envoyer pendant la période Covid, dans une durée longue, c'est pas possible. Vous avez un problème de dos, d'ergonomie. Et donc ça, c'est un sujet aussi de responsabilité d'entreprise, de qualité de vie au travail et donc de responsabilité sur la prise en charge de ces dispositifs. Donc on a trouvé un tiers payeur, on est en train de l'ouvrir en France. On a aujourd'hui 600 000 salariés qui sont éligibles au dispositif au travers des entreprises qui ont mis en place ce dispositif. Il est bien évidemment...
Ça représente combien de collaborateurs à peu près ?
Qui ont 40 000 collaborateurs ont déjà eu une aide, hein, une prise en charge d'une partie des intérêts de leur prêt immobilier, hein, qui vient en complément d'ailleurs du PTZ, du 1% logement, hein, en tout cas du prêt accession d'Action Logement. Donc c'est un dispositif qui est dans un format volontaire, mais qui permet aux primo-accédants de rentrer dans un de rentrer sur le marché de la propriété. Alors il y a d'autres dispositifs qui existent. On a notamment une structure qui joue le rôle de papa-maman qui est Virgile et qui c'est de l'indivision. Alors c'est plus c'est un dispositif qui est peut-être plus ciblé sur des zones très tendues et vous avez 10 ans en fait pour reprendre les parts. Donc on voit qu'il y a une innovation qui est nécessaire, que l'entreprise a ce rôle d'être acteur de façon encore plus forte que peut-être des dispositifs de chèques cadeaux ou autres, vous voyez, qui sont gérés en plus par les CSE, mais elle doit être au cœur de cette crise qui est sans précédent et qui ne va pas malheureusement s'arranger parce que le marché est très tendu. Et vous avez aujourd'hui beaucoup plus de structures, enfin de familles monoparentales, notamment dans les zones tendues, vous avez beaucoup de séparations, et donc un besoin très fort de logement, mais en lien sur une classe qui est une classe intermédiaire.
Oui, bien sûr. Mais vous le feriez, vous, les uns les autres, là, en plateau ? Ça, c'est un dispositif qui pourrait vous intéresser d'acheter en fait, via votre entreprise avec...
Il faut que l'entreprise mette en place ce type de dispositif. Alors la question, c'est que notamment les entreprises de plus de 10 salariés, sauf erreur de ma part, sont censées déjà cotiser à ce qu'on appelait le 1% logement. Donc elles ont déjà, là, sans doute pour partie d'entre elles, l'impression de contribuer à la question logement des salariés. Contribuer à hauteur de 30 000 euros, si c'est le montant moyen, on va dire, sur des grandes villes qui sont à 5-6 000 euros du mètre, vous avez 5-6 mètres carrés. Je ne dis pas que ce n'est pas intéressant. Je dis que vous ne passerez pas de 30 à 60 mètres carrés, ça va être compliqué. Et après, c'est, je pense, la question... il y a une question, effectivement. En plus, on est en train de dire à l'entreprise, il faut que tu soignes ton salarié quand il travaille chez lui. Je trouve qu'on fait peser beaucoup de choses sur les entreprises. Je veux bien entendre que chacun doit prendre sa part de responsabilité dans la crise du logement. Je reste un peu dubitatif sur le déploiement et surtout sur beaucoup de PME qui sont déjà confrontées à tout un tas de difficultés.
L'entreprise a clairement la charge de la survie de la politique sociale de plus en plus, en tout cas.
C'est simplement, ça pose aussi la question de la relation entre le salarié et l'entreprise, parce que j'imagine que si l'entreprise accorde des telles aides au crédit, ça engage le salarié sur des années et des années pour pouvoir rembourser. Oui. Et donc moi je me posais la question de qu'est-ce qui se passe si le salarié à un moment donné décide de rompre son contrat, en fait. Parce que est-ce qu'il va se retrouver quand même avec les intérêts, mais avec effet retard, ou est-ce que c'est un acquis, quoi ?
Alors peut-être sur les réactions, l'entreprise aujourd'hui, lorsque vous discutez avec des chefs d'entreprise et notamment avec les syndicats qui représentent ces entreprises, il y a un gros et les DRH, il y a un énorme sujet de fidélisation, d'attractivité. Ils n'arrivent pas à fidéliser leurs collaborateurs. Et ça, c'est pourquoi ? Parce que il y a une danse qui se fait sur les avantages qui sont de plus en plus forts, impactants. Et vous, lorsque vous êtes dans une période d'incertitude, vous cherchez quoi ? Vous cherchez en fait une entreprise qui va vous offrir une bonne qualité en termes de notamment de la mutuelle.
Oui, tout à fait. Voilà. Non, mais on voit les entretiens effectivement où le préalable c'est combien de jours de RTT. C'est même plus. On parle pas du poste. On parle des avantages avant de parler du job. Mais pardon, je vous ai coupé. Mais je trouve que c'est effectivement c'est un problème aussi de recrutement puisqu'on voit bien qu'il y a des entreprises qui n'arrivent pas à recruter parce que les salariés n'arrivent pas à se loger. Donc c'est un vrai problème. Pour autant, c'est on revient au phalanstère du 19e.
C'est un problème que les entreprises ont toujours eu, le problème du logement. En fait, on ne fait pas beaucoup, les pouvoirs publics ne font pas le lien entre le logement et l'attractivité économique, mais c'est toujours une préoccupation des entreprises. Donc, ce n'est pas pour faire plaisir à tel ou tel salarié. C'est pour effectivement fidéliser, retenir les talents, en attirer d'autres, parce qu'il faut de la main-d'œuvre. Aujourd'hui, il y a un rapport de force dans certains métiers sous tension qui est plutôt en faveur du salarié.
Bon, si on a la même discussion après 3 années de crise ou de récession économique, vous allez voir qu'il n'y aura pas de sujet. Oui. On n'en est pas là. Donc, et ça, c'est important. Et le MEDEF a plusieurs fois alerté le gouvernement et l'exécutif. La dernière fois, c'était un coup de gueule au MIPIM avec la Fédération des promoteurs pour dire on ne construit pas de logement, on est en train d'installer une pénurie qui va être un facteur de soutien des valeurs, si je reviens un peu sur le marché. On a une pénurie surtout de logements situés dans des zones où on veut aller. Oui, ça ne baissera pas à Nice. Pourquoi ? Parce que vous êtes au bord de mer, parce qu'il fait beau, parce qu'il y a plein de choses. Oui, ça monte en Bretagne parce que c'est devenu accessible. Moi, j'ai connu la Bretagne qui était au fin fond de la France. Hein. Et c'était une aventure pour aller à Saint-Malo, comme pour aller encore pire pour aller à Brest. Donc, voilà, il y a tous ces, tous ces jeux-là. Et ce qui se passe, en fait, la crise qu'on entame, à mon sens, montre que dans toute la chaîne du logement, il y a des étapes intermédiaires qu'on a oubliées. Le logement intermédiaire a été oublié. Donc, on a fait beaucoup d'efforts sur le logement social et on voit que le logement social est interdépendant de la production des promoteurs immobiliers. Et c'est un effet revers de la loi SRU. Donc, au bout d'un moment, vous avez un quota de logements sociaux dès que vous lancez un programme. Vous savez quoi ? Vous lancez pas de programme, vous n'avez pas de logements sociaux.
Donc, qu'est-ce que vous pensez d'ailleurs du choc de l'offre là, lancé par le ministre ?
Choc d'offre ?
Il arrive trop tard. Donc le choc de l'offre, il aurait dû arriver en 2017 quand un certain Julien de Normandie était ministre du logement. Ouais. Et on est resté sur du wording. Donc là, vous pouvez faire un choc de l'offre, il y a un problème de demande. Il faut faire un choc de la demande et un choc de l'offre. Donc c'est trop tard. Si on veut réenclencher un cycle de production du logement, il va falloir raisonner totalement différemment. Il va falloir peut-être enlever un certain nombre de compétences à Bercy. Bercy cherche 20 milliards. Vous savez quoi ? Les 20 milliards, c'est les logements qu'on n'a pas vendus. Mmh. Les logements qui ne sont pas construits. C'est la TVA qu'on n'a pas collectée sur les logements qui ne sont pas produits. Ils sont là, les 20 milliards. Donc au bout d'un moment, il va falloir qu'il y ait un politique qui mette tout à plat et qui ait une stratégie long terme. Le problème, c'est à qui ça profite ? L'élu qui part dans 5 ans ou dans 6 ans ou à son successeur. Donc, on a des injonctions contradictoires et là, il y a un vrai gros sujet.
Ouais, je pense qu'on est tous d'accord. Et d'ailleurs, Laurent Permez, vous êtes en lien avec Bercy. Comment ça se passe, sans trahir de secret ? Et puis, comment vous expliquez que, justement, le gouvernement n'ait pas eu la vision de ce qui allait se produire ?
Alors c'est peut-être parce qu'il n'y a plus de commissariat au plan, hein. C'est possible. Hein. La prévision est nécessaire et l'anticipation. Alors à un moment donné, là, il a été abandonné, mais juste, je pense que l'entreprise aujourd'hui, on parle de niche fiscale, donc le titre restaurant, le CESU, l'épargne salariale, qui est quand même la préparation de la retraite. Moi, c'est pas une niche fiscale, la préparation de la retraite. Enfin, c'est, vous voyez, tout est dit et son contraire. Donc la politique sociale d'attractivité liée entre une entreprise qui est là pour installer et créer de la valeur et donc de l'emploi, eh bien, on ne parle pas de niche fiscale. Voilà, ça, je pense que c'est important. Et lorsqu'on est sur la pyramide de Maslow, lorsqu'on parle du toit, hein, du chez-soi, bah, on est encore moins sur une niche fiscale. Enfin, c'est une aberration. Donc, aujourd'hui, les entreprises s'y retrouvent. Le 1% logement, le 0,45, n'est pas suffisant, puisqu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le 0,45, qui était prélevé sur la masse salariale des entreprises de plus de 50 salariés, en fait.
Ah, 50, pardon.
Voilà. Eh bien, celle-ci, elle est faite pour financer l'ensemble des dispositifs sociaux, de location, notamment la caution aussi, hein, Visale, qui est très, très intéressante et qui sert énormément, et puis aussi l'accession à la propriété. Il y a eu 18 000, près de 1% sur l'enveloppe de 30 000 euros l'année dernière. Donc vous voyez, 18 000 peut faire plus, puisqu'il y a beaucoup plus de primo-accédants ou en tout cas de personnes qui sont dans ces critères d'éligibilité. Et donc aujourd'hui, on a rencontré Bercy, on a rencontré le ministre du Logement, son cabinet et des députés et des sénateurs qui sont mobilisés sur le dispositif, qui sont en phase. En disant, de toute façon, on n'a pas grand-chose d'autre. Et ce dispositif, en plus, c'est quand même c'est l'entreprise qui le finance en partie. Et donc, on a demandé une exonération partielle des charges patronales au même titre que l'épargne salariale, Alors vous allez voir pourquoi c'est l'épargne salariale, le même schéma d'exonération, parce que les Français, les salariés, débloquent massivement leur épargne retraite, ce qui est une erreur.
Oui. Ouais.
Donc les 30 000 euros, là, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils siphonnent leur plan d'épargne retraite, hein, donc le PERCOL, qui a un cas de déblocage, qui est notamment l'achat de la résidence principale, avec un nouveau cas d'ailleurs qui est les aidants à partir de 2025. Pardon. Mais, donc ils débloquent, c'est non soumis à l'IR, hein, et donc vont le poser dans leur plan de financement. Sauf qu'on sait qu'il y a une longévité de la vie, on sait que la retraite complémentaire, en tout cas, est indispensable et n'est pas suffisante pour les Français. Hein, la pension ne sera pas suffisante. Donc ça, c'est laisser glisser un autre terrain qui est la précarité au moment où je vais partir en retraite, en tout cas sur les 10-15 années après, parce que la pension ne sera pas suffisante pour payer en fait le rester chez soi. Donc c'est un impact fort. Et donc aujourd'hui, on sait que Bercy, c'est difficile, parce que Bercy veut une neutralité et défend son budget. Mais lorsque vous ne pouvez plus loger, on va revenir sur une crise, et je pense c'est le début de la crise, on ne l'a pas encore vue, malheureusement, parce que tout est gelé, et donc vous allez avoir un effet retard, parce qu'on ne l'a pas vu. Et cet effet retard, eh bien, ça engendre des crises extrêmement fortes, notamment sur la classe dite intermédiaire, hein, ce fameux ventre mou, qui n'a pas le droit aux aides, ou en tout cas qui est au-dessus, légèrement au-dessus des critères d'éligibilité du PTZ, qui est pour le neuf, du 1% logement, et qui n'a pas cette capacité en fait à sortir de cette spirale où je fais une heure et demie pour aller à mon travail, donc mon trace carbone, on n'en parle pas, et j'ai des conditions qui sont de plus en plus difficiles si je veux changer de travail. La mobilité est quasi impossible aujourd'hui. Donc, et pour répondre peut-être à la dernière question sur mon salarié est-il prisonnier de l'entreprise, en fait, on a trois chiffres qui sont assez simples à comprendre. Le premier, c'est la duration d'un prêt, 8 ans. En fait, la fidélité, elle est de 8 ans, parce qu'au bout de 8 ans, je repars sur un nouveau projet. La fidélité, alors source INSEE, à mon entreprise, toute chose égale par ailleurs, elle est de 10 ans. Et sur les 10 premières années, vous remboursez plus de 65% de vos intérêts. Donc en fait, là, je dirais que l'impact, il est très très fort sur l'accession à la propriété, parce que j'ai un apport qui m'évite de débloquer mon épargne retraite, qui aura un rendement beaucoup plus important, hein, au moment de ma retraite. Et en même temps, c'est un avantage qui touche ma famille. Ça, c'est pas neutre. Et je comprends, je suis d'accord pour dire oui, je perdrai cet avantage au bout de 8 ans, au bout de 5 ans, je quitte mon entreprise, mais généralement, je la quitte pour des jours meilleurs. C'est-à-dire que j'ai trouvé un autre emploi qui me permet d'avoir une augmentation de salaire, etc. etc. Donc l'impact, si vous voulez, il est vraiment lié à l'attractivité. Les chefs d'entreprise et les DRH en ont besoin. En ont besoin parce que le logement et l'impossibilité de se loger leur pose un problème aujourd'hui de rapport entre le salarié et l'entreprise.
Oui, souvent, c'est vrai que c'est assez inégal, cette panoplie d'avantages sociaux dont vous parliez, c'est assez inégal entre les grandes et les plus petites entreprises. Et pour le coup, là, vous le proposez du coup à tout le monde. Donc, ça permet aussi aux petites entreprises de devenir attractives et d'avoir cette capacité à garder les talents. En tout cas, la transition, du coup, on parlait de retraite et je vous propose tout de suite de passer à notre second sujet, l'adaptation du logement au vieillissement, juste après une petite pause.
Le grand jury de la presse immobilière sur Radio Immo.
Retour donc sur le plateau du grand jury de la presse immobilière pour cette dernière partie de l'émission. Et oui, ça passe très vite, surtout quand on traite de sujets intéressants. Nous le disions tout à l'heure, vous avez dirigé le manifeste pour la liberté de vieillir chez soi aux éditions du Cherche Midi. On peut peut-être passer sur notre écran la couverture en gros, voilà, on l'a. C'est un sujet plus que d'actualité. Faut croire que vous êtes quelqu'un qui aimait la vie, aimait les gens et qui voyait ces gens vivre de plus en plus longtemps. Et donc, vous êtes saisi, emparé de ce sujet. Vous étiez bien entouré sur ce livre. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans cette aventure-là, juste par curiosité ?
Il y a très longtemps. En fait, j'ai fait ce qu'on appelle un petit boulot, vous voyez. Avant d'entamer des études de médecine, je voulais être urgentiste. Et je me suis retrouvé malheureusement pas du tout brancardier pour le mois de juillet. Je me suis retrouvé en fait dans un service de gériatrie. Et à 17 ans et demi, lorsque vous accompagnez des personnes, parce qu'il y a très peu de soins, et les services palliatifs n'existaient pas en fait. Donc vous avez des personnes de tout âge, bien évidemment des personnes âgées. Donc vous les accompagnez la nuit, je faisais la nuit, pour le dernier souffle. Et donc je me suis dit... Enfin, ça m'a marqué, donc je me retrouve aujourd'hui très naturellement dans un fil rouge, vous voyez, le CESU, la création des services à la personne, le rester chez soi, puisque j'ai été marqué par un autre point, puisque j'étais dans un établissement de la science publique, et au mois de juillet, beaucoup de personnes âgées venaient pour un séjour court, mais malheureusement le séjour se finissait, oui, puisqu'une rupture psychologique très forte entre « je ne retournerai plus » chez moi.
Je cite dans l'ouvrage, j'ai vu des femmes et des hommes déracinés de leur chez eux, sans réel avenir ni désir de vivre, un billet sans retour à la maison. Est-ce que nous refusons de regarder ce sujet, en fait, de la vieillesse face ?
Mais bien sûr. Bon, le livre s'appelle Manifeste parce que c'est un mouvement. En fait, le sujet est tabou. On parle plus de l'euthanasie que le vieillissement. Il est tabou parce qu'on ne souhaite pas le traiter, l'anticiper. Et en fait, notre société moderne n'est pas si moderne que cela. Pourquoi ? Parce qu'on n'a toujours pas trouvé la solution de l'intergénération, hein, le lien évident sur le sens que j'ai... dans ce que je fais, dans ma vie, et notamment lorsque je suis retraité. Hein. L'étymologie du mot retraité est intéressante, c'est « en dehors d'eux ». Donc vous êtes en dehors de la société, et donc la question de fond, c'est « mais je sers à quoi ?»
Mais comme le disait Virginie tout à l'heure, peut-être que grâce au tanguisme, ça va changer.
Non, je pense pas qu'il faille envisager les choses comme ça, mais bon.
Faudra de la c'est du béquinage.
Bon, en tout cas,
oui,
c'est...
Oui.
Je t'en prie. Hein.
Non, mais je vous laisse poursuivre.
Ce livre, en tout cas, s'appuie sur du concret. On a 18 rapports qui ont été dédiés au vieillissement, 372 propositions formulées en 5 ans entre 2019 et 2023. Ne pas renoncer, oser demander de l'aide, mobiliser ses ressources, entretenir sa mobilité et vieillir à domicile, vieillir ensemble. Finalement, on est un petit peu dans l'esprit en 5 étapes, on en a 5. Comment rester chez soi en 5 étapes ?
Oui, c'est la continuité du bien logé et du cri qu'avait posé l'abbé Pierre, en fait. Aujourd'hui, notre société n'est pas organisée pour pouvoir rester chez soi. On parle d'une transition énergétique, hein, et on n'a pas parlé de la transition démographique, et notamment d'un secteur de services, hein, on parle de la silver economy, mais qui n'a pas trouvé encore son élan pour pouvoir financer et accompagner des Français qui souhaitent rester chez eux, parce qu'il faut de l'argent. Alors, il faut anticiper, il faut que son logement soit adapté, et il faut pouvoir être aidé et avoir toujours un lien social très important, parce que sinon on part très vite. Et cette problématique de lien social et d'aide, elle est aujourd'hui gérée par le bénévolat. Ça, c'est le miracle français. Lorsqu'on a un problème social, on trouve la solution grâce au bénévolat. Et donc vous avez 5,5 millions de salariés qui sont essentiellement des femmes, entre 45 et 55 ans, hein, donc vous voyez aussi qui ont leur emploi, et qui font une deuxième journée, hein, donc c'est sympa ça, deuxième journée pour aller aider un proche. En moyenne, c'est 10 heures par semaine, et c'est 230 km que vous allez faire. Donc vous voyez, le gouvernement parle aussi d'emploi des seniors, bah forcément, c'est une précarité, puisque voilà, c'est impactant dans votre quotidien, c'est impactant dans votre travail. Les slides ou la concentration que vous avez, celle-ci vous met un peu en dehors de l'entreprise. Donc c'est un grand sujet pour l'entreprise, puisque vous avez de l'absentéisme qui commence à être de plus en plus important. Et l'entreprise marginalise forcément les aidants. Donc vous avez 5,5 millions d'aidants qui sont des salariés, 10 millions au global, et qui aujourd'hui traite le sujet de façon bénévole. Donc là, le budget de l'État est protégé.
Il n'est pas amputé.
Voilà, mais c'est pas normal, puisqu'en fait, c'est du temps. C'est pas par choix, c'est tout simplement parce que c'est un engagement, vous devez vous occuper.
Sans compter tous ceux qui ne se reconnaissent pas comme aidants, donc qui du coup sont très probablement pas dans les statistiques.
Bah, ils évitent parce que vous avez un peu plus de 30% l'évalue d'aidants qui ont un emploi qui ne se déclarent pas par peur d'être stigmatisé et d'être viré, hein, pour être très clair, en fait, puisque vous absentez énormément. Alors, les grandes entreprises sont organisées avec des tambolas, c'est très bien, mais c'est très de compte épargne-temps, mais tout le monde n'est pas, là encore, dans une grande entreprise. Donc, vous avez un sujet géré par le bénévolat et pour lequel il n'y a pas de solutions qui ont été engagées pour pouvoir financer votre rester chez soi, et notamment par votre... par l'immobilier, par la propriété, hein, puisque 75% des Français qui ont plus de 70 ans sont propriétaires, par contre. Et on parle de monétisation d'une partie de votre propriété pour pouvoir rester chez vous et avoir une pension complémentaire qui vous permette d'acheter des services à la personne, vous permette d'adapter votre logement, puisqu'il y a un reste à charge qui peut être plus ou moins important. Là encore, hein, vous avez la moitié des retraités qui payent des impôts et donc qui ne sont pas forcément pris en charge à 100% par l'APA, par ma prime adapt, et pour lequel vous avez un reste à charge. Donc tout ça s'organise, tout ça se prévoit, les notaires doivent être la tête de pont pour pouvoir conseiller, et en même temps qu'on propose d'ailleurs un chèque soutien de famille, et ce chèque permet justement aux entreprises de l'offrir, hein, plus qu'un chèque culture, de l'offrir aux salariés qui sont aidants pour qu'ils puissent consulter, c'est une ordre de consultation, auprès d'un notaire pour justement s'organiser. Et s'organiser en famille pour dire, bon ben voilà, qu'est-ce qui va se passer? Comment je vais... est-ce que j'ai assez d'argent? Est-ce que je vais choisir une résidence médicalisée ou une résidence avec d'autres... voilà, d'autres personnes du même âge, et puis une cuisine, si jamais j'ai pas envie de la faire. Tout ça se prévoit. Mmh. Et on voit aussi, il y a une étude qui a été faite au niveau des pays européens. Tous les autres pays européens ont cette même problématique, en fait, d'un vieillissement très fort. Hein. Plus de 30% de la population française a plus de 60 ans. Quoi. C'est énorme. Et ça n'a pas été organisé. Et donc, vous avez un pays qui tire son épingle du jeu, qui est notamment le Danemark, pour lequel vous avez une fédération de retraités très puissante, ils sont 1 million, et eux peuvent toquer à la porte des gouvernements pour dire « bon, c'est bien les études, mais on va peut-être passer à la vitesse supérieure maintenant ». Et donc, ça leur permet d'être dans l'action et de pouvoir faire passer des mesures pour justement accompagner toute cette problématique du vieillissement et du rester chez soi, et du logement.
Vous allez donner des idées aux Français, là.
Mais du coup, selon vous, c'est quoi la priorité? C'est-à-dire, est-ce que c'est de dire à un moment... parce que, voilà, vous arrivez à la retraite. Généralement, vous passez la première dizaine d'années qui suit votre retraite à voyager, à profiter. Et c'est enfin, voilà, très bien, on les voit. Hein, y en a qui sont hyper actifs, ils sont tout le temps dehors. Les petits-enfants, s'il y en a, ils sont pas tout à fait envie de s'en occuper. Et très bien, ils ont déjà fait leur job. Est-ce que c'est de se dire à un moment le patrimoine accumulé, parce que effectivement c'est une génération qui a pu accumuler beaucoup de patrimoine, qui vit beaucoup plus longtemps que celle d'avant aussi. Ça, c'est quand même aussi nouveau, l'allongement de la durée de la vie à ce moment-là. Est-ce que c'est de dire, bah, de toute façon, il faut revenir sur les dogmes de l'héritage, parce que bah, non, en fait... il n'y aura pas forcément d'héritage parce qu'il y a cette prise en charge du 4e-5e âge à faire. Est-ce que c'est d'arriver à trouver des solutions de modélisation ou de déménagement beaucoup plus simples? Les seules mesures qu'on ait vues jusqu'à présent, alors je crois qu'il devait y avoir la loi grand âge, mais c'était ces aides pour transformer ces fameuses aides de Normandie. Hein, donc il y a quand même eu quelque chose à l'époque pour transformer les salles de bain. Enfin, c'est une chose parmi d'autres, hein, ça suffit sans doute pas à accompagner les gens. C'est quoi pour vous la priorité? Est-ce que c'est une question d'information, de mentalité, une question économique? Alors j'imagine que c'est tout en même temps, mais qu'est-ce qui est l'aiguillon pour vous?
Alors le sujet qui pose le plus de problèmes, c'est en fait l'habitude de transmettre et l'héritage. Donc ça, c'est un sujet lié religion, au christianisme, où voilà, on se sacrifie et on pour transmettre. Mmh. C'était très pertinent dans les années où la longévité, en fait, était très faible, hein, autour de 68 ans. Et c'était les enfants hérités autour de 30 ans, hein, entre 25 et 30. Donc là, c'était un coup de pouce qui permettait en fait d'acheter. Donc on avait ce lien intergénérationnel fort, de responsabilité. Il est totalement... il a volé en éclats, puisque aujourd'hui, l'âge moyen de l'héritage est de 59 60, ans.
Ouais. Mmh. 60.
Donc, mais on n'a rien changé. Donc la tradition a toujours été conservée de ce sacrifice pour transmettre. Et donc ça, les notaires, aujourd'hui, doivent impérativement, donc j'ai échangé avec le président de l'Ordre des notaires, impérativement, en fait, modifier leur discours et alerter les populations, les Français, pour leur dire, un, consommez votre retraite, deux, si vous voulez transmettre, très bien, mais assurez-vous que vous allez avoir assez de financement, assez de fonds pour pouvoir vivre sans faire appel à votre famille, parce que c'est en fait c'est vos enfants et vos petits-enfants qui vont devoir en fait financer. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? À 75 ans, c'est là où il faut se poser la question de est-ce que mon bien, je l'hypothèque, ou est-ce que je nantis mon contrat d'assurance vie pour, en contrepartie, avoir une somme, hein, 30% de la valeur, qui, elle, n'est pas fiscalisée, puisque c'est un prêt, hein, c'est une ligne de crédit ou un prêt, et je vais pouvoir, en fait, compléter ma pension pour parce que j'ai choisi de rester chez moi. Et donc, je suis conseillé, je sais combien ça va me coûter. J'ai eu une évaluation. Et donc ça, ce point-là, il doit être impérativement posé dans la dimension de conseil des notaires, c'est leur rôle, c'est leur rôle. C'est un peu comme le bilan retraite, hein, vous avez le bilan retraite, et ben là c'est le bilan transmission, en disant, bah, 75 ans, qu'est-ce qui se passe, comment vous souhaitez vieillir, puisque là on va rentrer dans le quatrième âge. Et plus vous avancez dans cet âge, moins vous êtes en facilité pour décider. Il y a de moins en moins de prise de décision plus vous vieillissez. C'est pour ça que tout est gelé ensuite. Mmh. Et donc ça, c'est le viager aussi. On parle de viager. Alors moi, je trouve qu'il y a un viager qui est intéressant, qui est celui, notamment, où vous restez propriétaire, parce que les Français veulent rester propriétaire pour transmettre quand même. Vous pouvez pas créer une rupture aussi forte que de l'usufruit. En fait, personne comprend d'ailleurs le démembrement. On comprend au Moyen-Âge, c'était d'une torture. Vous étiez sur la roue. Donc, vous voyez, vous avez des termes. Les Français sont pas non plus des banquiers, n'ont pas une formation de notaire, c'est pas leur rôle non plus. Et il y a eu malheureusement énormément de dégâts avec le viager, hein, et le bouquet, le fameux bouquet où on parie sur mamie pour regarder, ouais, le papy pour savoir s'il va casser sa pipe assez rapidement, qui est là encore un processus d'investissement, de spéculation si vous voulez. Là, on parle pas de cela, on parle juste de comment je vais monétiser ma maison, ma propriété. Parce que 75% sont propriétaires, pour financer un petit peu mon rester chez moi ou mon choisir mon chez moi sans venir trop taper dans la poche des enfants et des petits-enfants. Parce qu'eux-mêmes ont des difficultés déjà d'accession à la propriété et de logement. Donc si vous voulez, c'est un acte responsable, d'où ce livre manifeste, parce qu'il faut véritablement casser le tabou. Il est très très lourd, il est lié à... une dimension religieuse, de tradition, séculaire, et même si voilà, ça s'est envolé, est restée cette notion de sacrifice pour transmettre. Et donc là, c'est ce qui pose, hein, le vrai sujet de pouvoir monétiser, consommer.
Surtout quand on fait des papiers sur l'achat immobilier, on dit bien aussi aux jeunes de voir s'ils ne peuvent pas avoir un peu de sous de la part de leurs parents ou grands-parents. Donc on peut être totalement schizophrène sur le thème, mais...
Complètement, oui. Après, il y a les donations de son vivant, la nue propriété. Mais vous voyez, c'est réservé peut-être à une certaine, population. Et là, on parle des Français qui sont propriétaires et qui sont à 75 ans en train de se poser des questions. Mmh. Et qui refusent de se les poser, de parler en famille. Hein.
Alors, ce qui est dingue, je trouve, là-dedans, c'est qu'on parle de rester chez soi. C'est louable. Parce que je pense que ces personnes ont envie de rester chez elles. Et en même temps, on est quand même dans un contexte de pénurie de logements, dans un contexte de sobriété foncière à cause de la transition écologique par ailleurs. Donc on fait quoi ?
Eh bien, on lance un programme. Donc j'ai écrit un programme de 7 propositions de loi. 4 sont autour de l'entreprise qui va jouer un rôle important sur le plafond du CESU, par exemple, qui sera relevé pour les aidants. Bah oui, c'est du bon sens, en fait. Et ça, c'est déjà budgété, si vous voulez. Et c'est fléché. Donc, c'est la capacité de pouvoir prendre en charge une partie des intérêts pour des salariés qui ont un statut d'aidant et qui doivent adapter leur logement parce qu'ils vont héberger papa ou maman. Alors, c'est souvent maman parce que papa a fermé les yeux avant. Et donc, il y a un rapprochement familial qui se fait. C'est ce qui est en train de se passer en France avec une adaptation du logement, la pièce en plus. Et donc, ça, c'est un coût. Donc, l'entreprise peut jouer ce rôle parce qu'elle va s'y retrouver dans l'engagement, dans la fidélisation, et puis surtout dans cette éviter de marginaliser en fait le salarié avec de nombreux arrêts, parfois même des engagements, hein, puisque vous avez même des dirigeants qui ont démissionné pour s'occuper de papa ou de maman. On le voit avec l'ancienne dirigeante de la RATP, donc ça, qui a choqué d'ailleurs. La société en disant, elle a un emploi, je comprends pas, vous voyez. Non, mais les gens savent. Bah parce que c'était impossible.
L'espoir, du coup, c'est l'entreprise et la solidarité intrafamiliale, finalement.
Ouais, alors, l'entreprise, et puis il y a deux projets de loi qui sont liés à l'individu, hein. C'est la capacité à pouvoir déduire les intérêts du prêt que je fais pour financer, hein, le prêt hypothécaire, par exemple. Et donc, je vais déduire ces intérêts dans l'enveloppe du CESU, notamment qui est réservé 20 000 euros par an, qui est réservé pour ceux qui ont un statut d'handicapé. Mais c'est handicapé à 80%, et donc l'idée c'est de le baisser à 50%, puisque lorsque vous avez un problème de mobilité, et que vous n'avez pas votre carte d'handicapé à 80%, mais que vous avez quand même des difficultés, vous ne pouvez pas aller faire vos courses, eh bien, vous ne rentrez pas dans les aides. Vous voyez, donc là, l'idée, c'est de le descendre, puisque c'est fait par la carte avec le format et le critère, en fait, de pourcentage d'handicap que vous avez est évalué par le médecin. Et donc, vous allez avoir une aide avec un plafond qui sera plus haut chaque année, qui sera le plafond, en fait, qui est aujourd'hui réservé uniquement aux handicapés à hauteur de 80%. Parce que la mobilité, si vous voulez, c'est un handicap. Vous voyez, donc vous ne pouvez plus aller faire vos courses, vous ne pouvez plus conduire. C'est un handicap extrêmement fort qui engendre derrière une cassure, en fait, au niveau du lien social. Et là, c'est la descente. Et ça va engager de plus en plus de dépenses parce que vous allez devoir rester avec énormément chez vous, mais avec énormément d'aide.
Antoine ?
Oui, je comprends très bien la question à la fois du financement des travaux pour pouvoir rester chez soi et de la prise en charge des personnes âgées, notamment par les aidants, mais je me pose quand même la question du bâti, en fait. Est-ce qu'à un moment donné, bon, ma prime m'adapte a été lancée, bon, clairement on n'est pas sur les mêmes scores que ma prime rénov, visiblement, en termes de demande d'aide, est-ce que ça passe aussi par là ? Est-ce que ça passe aussi par une grosse politique là-dedans de financement, en fait ? C'est du financement des travaux et du financement du bâti. On sait que, voilà, et est-ce que les logements ne sont pas devenus aussi trop grands ? On sait que, bon, forcément, quand on vieillit, souvent on vieillit seul. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire sur le bâti, en fait ?
Et est-ce que quand j'adapte, est-ce que c'est réversible ?
Oui, alors, le bâti, déjà, il y a un manque de lits. Hein, on l'évalue à entre 400 et 500 000. Donc là, il y a un vrai sujet, en fait, de logement, hein, notamment pour les personnes vieillissantes de plus de 75 ans. Dans le bâti, alors ça a un peu choqué, dans le projet, il y a notamment un dispositif dit Pinel, de Pinel de l'aîné. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous voyez aujourd'hui des projets qui commencent à émerger de lotissements de 60 et de 60 logements autour de 60 mètres carrés, 60-80 mètres carrés, avec des prix très modérés et pour lequel il doit y avoir un lien, un contrat de service avec le maire qui s'engage à avoir un accompagnement déjà pour éviter le désert médical, qu'il y ait les commerces qui viennent sur le site, qu'il y ait de la mobilité. Là aussi, on se soucie plus du ramassage des ordures ménagères, vous voyez, pour qu'elles passent bien toutes les semaines, mais il n'y a absolument pas de contrat de service sur la mobilité de personnes qui ne peuvent plus se déplacer, pour lesquelles on est en dehors de l'urbain, et vous n'avez pas de car, rien n'est prévu. Donc ce contrat de service est obligatoire dans la mise en place et la création d'un bâti, de logements qui sont adaptés, pour lesquels vous avez des pièces à vivre. Il n'est pas médicalisé, vous avez des potagers, donc vous avez un gardien. Donc en fait, c'est une vraie promesse de se voir vivre, vieillir, sur ce type de bâti, qui aujourd'hui, malheureusement, n'est pas encore posé. Hein. Donc il y a 3-4 projets, mais ça doit être encouragé, et ça doit être encouragé notamment par de l'investissement, c'est les enfants, qui peuvent le faire pour leurs parents, ou c'est même leurs parents qui se disent ça m'intéresse d'avoir ce type de dispositif parce que c'est plus petit et en effet c'est plus adapté à ce que je souhaite avoir par rapport à la grande maison avec les deux escaliers et les deux étages, ou l'étage, hein, qui est tout souvent le pavillon avec son étage qui est fermé en haut.
Gaël ?
Attention, parce qu'il y a toujours une dimension psychologique. Si j'ai envie de vieillir chez moi, c'est aussi de vieillir dans mes souvenirs. Donc c'est de vieillir dans la maison familiale où j'ai pu élever mes enfants, où j'ai des souvenirs. Et j'ai pas forcément envie de me retrouver dans quelque chose de plus petit. Il y a quand même un sujet d'adaptation du parc existant. Et il y a un truc qu'on n'a jamais essayé de coupler, ou qu'on n'a jamais réussi, c'est qu'on doit lancer d'immenses travaux de rénovation énergétique et environnementale en même temps qu'on doit adapter les logements à ceux qui vieillissent. Le problème, longtemps, il était devant nous. Là, maintenant, c'est maintenant, quoi. Ça y est, on peut reculer, mais la démographie...
Les deux, d'ailleurs.
Non, mais on est dans le déni, on n'a pas envie de se projeter là-dessus. Mais maintenant, ça y est, c'est plus du futur, c'est du présent. On a ma prime adapte, ma prime rénove. Bon, il n'y en a aucune des deux qui fonctionne, grosso modo. Ouais. On n'a jamais eu l'idée de faire un dispositif simple et non pas issu de cerveaux d'énarque, si talentueux soient-ils, mais ils se comprennent qu'eux-mêmes. Il manque cette lisibilité. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si moi je dois changer mes fenêtres, si je dois poser des panneaux photovoltaïques, au même moment, j'en profite peut-être ou pas pour refaire la salle de bain, pour l'adapter, et peut-être pour échelonner aussi, pour prévoir. On n'a jamais pensé à ça, et je pense que ça, c'est la partie la plus simple. La partie la plus compliquée, ça va être de trouver du personnel. Les fameux emplois de service dont personne ne veut travailler dans un EHPAD, c'est vraiment ça le sujet. Personne ne veut faire ce boulot. Alors oui.
Enfin, dans les conditions dans lesquelles ils sont faits aujourd'hui.
Non, mais même si c'est très bien payé, c'est pas des métiers attractifs, c'est pas des métiers.
Peut-être qu'on y reviendra. Enfin, moi j'ai espoir qu'on revienne à des métiers socialement utiles et que ça redevienne.
Faut que ça soit une filière. Je suis complètement en phase. C'est les services à la personne. C'est vous n'avez pas fait d'études, vous ne parlez pas très bien français. J'ai une bonne nouvelle, j'ai un métier pour vous.
Ouais. Et mais on a ça, le même problème sur la petite enfance. Hein.
Ouais, c'est pas possible. Donc ça doit être des critères, une valorisation du métier, un diplôme, être assermenté. Parce que lorsque vous avez constat que la personne s'est fait maltraiter ou a une carence, être assermenté vous permet directement d'avoir une aide du CCAS, hein, de la mairie, sans qu'il y ait eu des démarches de fait par les enfants, etc. Donc il y a une vraie filière à construire, mais celle-ci, pour la construire, il faut qu'il y ait une solvabilité de la demande. Donc il faut qu'il y ait de la monnaie, suffisamment de pensions complémentaires, notamment par la monétisation de l'immobilier, de sa propriété, etc., pour être en capacité d'acheter. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Tout est figé. C'est-à-dire que je ne peux pas, même si vous avez les aides au travers de l'APA, etc., mais je vous rappelle, c'est sous condition de ressources. Donc en fait, vous payez, alors que vous en avez besoin, une aide ménagère pour faire vos courses, pour vous accompagner, pour pouvoir aussi circuler. Mais c'est pendant 10 ans, 10, 15 ans. C'est un sujet qui est très long en termes de financement. C'est une finance longue, donc... Il faut une filière.
En tout cas, c'est un sujet qui nous concernera tous à un moment ou à un autre. Je suis désolée, c'est passionnant, mais là, je me fais tirer les oreilles par mon technicien. On a déjà débordé d'une dizaine de minutes. Donc oui, nous sommes au terme de l'émission. Donc un grand merci à nos auditeurs pour leur fidélité, à nos journalistes, bien sûr, et aux grands témoins de se prêter chaque mois au jeu pour faire vivre cette émission. Et enfin, merci à bien ici, Régis, qui est resté à nos côtés en plateau avec des chiffres toujours plus éclairants. On se retrouve sans faute pour le prochain numéro du Grand Jury de la presse immobilière le 20 juin prochain avec pour grand témoin Jean-Philippe Dugoin-Clément, vice-président du conseil d'administration d'Île-de-France et président du conseil d'administration du Grand Paris Aménagement. J'espère que ça vous inspire. Et vous pouvez bien sûr retrouver ce programme en live, en podcast sur radioimmo.fr. Restez connectés, réagissez, partagez. Excellente soirée à tous.
Grand Jury de la presse immobilière, une émission en partenariat avec Régus et bien ici, à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.